Mesdames et messieurs, le secrétaire général va faire des remarques liminaires et après ça, il répondra à vos questions. Bonjour. Nous sortons d'une réunion de la commission OTAN-Ukraine. Et ceci à un moment où l'Europe est confrontée à différentes crises, notamment la crise en Ukraine, la plus complexe. L'Ukraine se trouve en face de séparatistes qui sont armés, soutenus, formés, équipés par la Russie. Et en même temps, elle mène des réformes importantes et tout ceci dans un contexte de crise économique sans précédent. Néanmoins, elle accomplit des progrès contre tous ces défis, ce qui est remarquable. Nous avons donc accueilli le ministre Poltorak, ministre de la Défense. C'était sa première réunion de la commission OTAN-Ukraine. Nous avons parlé de la situation sécuritaire et des violations continues et répétées du cessez-le-feu. Le progrès de l'Ukraine dans ses efforts de réforme de la défense et l'assistance de l'OTAN étaient les principaux thèmes discutés lors de notre rencontre. Nous saluons l'engagement clair de mener des réformes fondamentales dans le secteur de défense et de la sécurité. Ceci est un travail, une tâche d'envergure, demandera de la patience et de la détermination. L'OTAN accroît son soutien pratique et politique. Nous appuyons les réformes de l'Ukraine sur le plan pratique par le biais de financement et de conseils d'experts. Les 5 fonds d'affectation spéciale fonctionnent. Nous avons récemment lancé des projets sur les communications protégées et la sûreté et la sécurité de l'espace aérien régional. Ce sont des domaines cruciaux. Et en parlant de la sécurité, de la sûreté des communications aériennes ainsi que des télécommunications protégées, nous faisons ceci sous l'égide de notre fonds d'affectation spéciale en matière de commandement et de contrôle. Et nous avons également convenu de mettre en place un nouveau fonds d'affectation spécial. Nous travaillons sur le détail, mais il s'agira de déminage et de la lutte contre les engins explosifs improvisés. Un projet vital pour sauver des vies. Nous collaborons également avec le gouvernement d'Ukraine dans le domaine des plans civils d'urgence et de la gestion des catastrophes, la réaction aux catastrophes. Nous aurons un exercice dans ce sens dans l'automne. Encore un exemple pratique de notre soutien à l'Ukraine. En plus, nous mettons en œuvre le programme conjoint ambitieux agréé l'année dernière. Ainsi, politiquement, nous réaffirmons notre soutien pour l'Ukraine, sa souveraineté, son intégrité territoriale. La Russie doit mettre fin à ses actions agressives en Ukraine. Nous ne reconnaîtrons jamais l'annexion illégale et légitime de la Crimée. Nous allons continuer à coordonner nos actions avec d'autres acteurs et organisations internationales. Dans notre soutien à l'Ukraine, le peuple de l'Ukraine mérite notre soutien et nous sommes engagés à donner ce soutien. Je répondrai à vos questions. Nous commençons par la dame ici. L'OTAN soutient non seulement par des paroles, et par des fonds d'affectation spéciale, qu'est-ce qui se passerait si vous alliez au-delà? Eh bien, nous donnons déjà un soutien politique et pratique solide à l'Ukraine. Le soutien politique est essentiel, car il est important que la communauté internationale et l'Alliance appellent la Russie à respecter les accords de Minsk et de les mettre en œuvre intégralement. Et que nous appelons toutes les parties à respecter le cessez-le-feu. Le soutien pratique, eh bien, je vous ai parlé des fonds d'affectation spéciale, mais en outre, nous travaillons sur d'autres programmes. Le programme, par exemple, sur le renforcement de l'intégrité, Building Integrity, c'est en texte clair, c'est la lutte contre la corruption. Plus nous pouvons moderniser et réformer le secteur de la défense et de la sécurité, plus nous serons efficaces dans la lutte contre la corruption et plus l'Ukraine sera forte et capable de se défendre et de se protéger contre des attaques et une agression des séparatistes soutenus par la Russie. Et nous sommes, comme je l'ai dit, en train de multiplier notre soutien. Je parle notamment des efforts sur les télécommunications protégées, sécurisées, et dans le domaine de la sécurité et la sûreté de l'espace aérien. Nous allons ainsi partager avec l'Ukraine des données de circulation aérienne provenant d'autres pays de l'Alliance. Je parle bien sûr des données civiles, ce qui va améliorer la sécurité de l'espace aérien. Et nous avons trouvé un accord de principe sur la mise en place d'un nouveau fonds d'affectation spéciale sur le déminage et la lutte contre les engins explosifs improvisés, les EEI. Donc, je réaffirme notre soutien pratique et politique que nous renforçons au jour le jour. Et bien sûr, en outre, et outre ce que nous faisons dans les structures de l'OTAN, l'OTAN pose le cadre de différentes formes de soutien bilatéral à différents pays de l'OTAN ont des arrangements de soutien pratiques, financiers pour l'Ukraine, ainsi que des programmes d'entraînement, de formation, d'équipement et différentes formes de soutien. Le Royaume-Uni, par exemple, a annoncé l'intensification de son soutien bilatéral.
Monsieur le secrétaire général, j'ai deux questions pour vous. Je travaille pour le journal en Ukraine. Alors, l'agression contre l'Ukraine permettra-t-elle à l'OTAN et à l'Ukraine de travailler ensemble? Et pensez-vous qu'il serait mieux pour tous ceux que l'Ukraine garde un statut neutre? Y a-t-il chez les alliés une volonté de changer la politique de l'OTAN par rapport à une adhésion future de l'Ukraine? Merci. Alors, sur les communications, je crois que nous sommes tous d'accord pour dire que l'OTAN et l'Ukraine ne vont pas lutter contre la propagande russe avec de la propagande de guerre. Nous serons armés de faits. Parce qu'au final, c'est la vérité qui prévaudra. Donc la meilleure façon de lutter contre la propagande, c'est de donner la vérité, les faits. Nous travaillons avec l'Ukraine pour renforcer les capacités ukrainiennes et leur permettre de bien travailler dans le domaine de la communication avec un soutien pratique accru que nous fournissons à l'Ukraine. Ensuite de cela, nous travaillons dans la communication au jour le jour. Nous fournissons des faits sur ce qui a lieu en Ukraine. Ne serait-ce qu'à la réunion d'aujourd'hui où le ministre Poltorak a mentionné notamment la communication qui a lieu pour souligner vraiment ce qui se passe en Ukraine. Je pense qu'il y a un principe fondamental qui est le droit de chaque pays à l'autodétermination, de chaque peuple à l'autodétermination. Donc le pays peut choisir d'être neutre s'il le décide, de faire partie d'une alliance militaire s'il le veut. Mais là, c'est vraiment au pays de décider. Le pays décide de la voie sur laquelle il veut s'engager. Maintenant, il y a une décision à prendre pour le pays qui se porte candidat, une décision à prendre à 28 entre les alliés de l'OTAN, si l'OTAN décide de s'élargir. Le message important à faire passer, néanmoins, c'est que cette décision doit être prise par les 28 alliés et le pays candidat. Personne d'autre n'a le droit de dire quoi que ce soit ou d'opposer un veto quelconque à ce processus. L'Ukraine, à l'heure actuelle, se concentre sur le renforcement et la modernisation de son système, de son secteur de défense et de sécurité. Nous évaluerons la candidature de l'Ukraine de la même façon que nous avons procédé pour les autres. C'est quelque chose qui se fera si l'Ukraine se porte candidate le cas échéant.
Nous avons des questions dans le centre de la salle. Monsieur, merci. Je viens du Monténégro et c'est le journal Dan. Je m'appelle Marco. Deux, trois questions, Monsieur le Président, sur le Monténégro. Vous vous êtes rendu récemment dans notre pays. Que pensez-vous de la possibilité du Monténégro de recevoir une invitation, soit dans l'automne, en hiver ou plutôt lors du sommet. Et puis, vous avez parlé des victimes du bombardement en 99. Vous avez dit regretter les victimes, mais pensez-vous pour que la question soit close, qu'une excuse l'Alliance devrait présenter formellement ses excuses et proposer une compensation. Pour l'élargissement, la position de l'OTAN reste la même. Nous allons décider d'inviter le Monténégro ou non. Nous allons décider cela pour la fin de l'année, de cette année-ci. Et il en va de même pour les pourparlers intensifiés et centrés, pourparlers à thème, qui sont en cours. Donc ces pourparlers intensifiés étaient le cadre de ma visite au Monténégro et le Conseil se rendra dans votre pays prochainement. Voilà. Ce que nous faisons. Donc, nous menons des négociations ciblées et intensifiées. Le Monténégro réforme tous ses secteurs du renseignement militaire et autres. Nous allons évaluer les progrès obtenus par le Monténégro et nous verrons, déciderons notre position lors des ministériels de décembre. J'attends une décision des ministres en décembre. Ce sont les prévisions. Une décision donc sera prise pour la fin de l'année et non pas maintenant. Maintenant, pour ce qui concerne les victimes des bombardements, je voudrais réitérer que je regrette le fait qu'il y ait eu des victimes. Nous avons mené des opérations en 99 pour protéger les vies des civils. Et ces victimes n'auraient pas dû payer le prix de cette opération. Et je regrette le fait que les familles aient perdu des proches et ce qui s'est passé en 99.
Madame au deuxième rang. Kate Kochina, je travaille pour Radio Europe. J'aurais voulu savoir comment vous évaluez la qualité de la réforme à laquelle a contribué l'OTAN en Ukraine. Et y a-t-il des choses que l'Ukraine a refusé de faire? L'Ukraine avance et fait des progrès. Nous travaillons avec l'Ukraine à plusieurs niveaux. Et nous renforçons notre présence, nos efforts en Ukraine. Nous étendons le bureau de liaison OTAN à Kiev. Nous avons également discuté de différentes réformes dans le secteur de la défense et de la sécurité dans la réunion que nous avons eue ce matin. Il y a quelques obstacles pratiques, mais nous avons tenté de les résoudre avec le ministre de la Défense ukrainien et nous voyons que nous avançons. Dans le même temps, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, notamment pour la lutte contre la corruption. Je crois que nos homologues ukrainiens et l'OTAN comprennent bien qu'il s'agit vraiment d'un défi gigantesque à relever, d'où notre programme de renforcement de l'intégrité. Le programme de réforme va se concentrer sur la formation militaire et sur la formation des formateurs pour mettre sur pied des institutions de formation militaire en Ukraine. Donc là, nous avançons vraiment bien et je crois que c'est là la chose la plus importante. Il ne s'agit pas de formation en tant que telle, mais nous aidons les Ukrainiens à développer leurs propres institutions de formation de leurs propres soldats. Donc de manière générale, effectivement, nous avançons. Il y a encore beaucoup à faire, mais nous essayons d'aider l'Ukraine à se lancer dans ses réformes et à continuer sur ses réformes tout en assurant une formation militaire pour lutter contre l'agression des séparatistes pro-russes. Tout cela souligne bien la complexité de la situation. NPR.
NPR et CBS, vous avez dit qu'il est possible que les combats lourds continueront. Et il n'est pas prouvé, il n'est pas démontré que la Russie ait mis en œuvre une quelconque partie des accords de Minsk. Est-ce que cela vaut la peine de dire que le cessez-le-feu de Minsk est encore respecté, étant donné les violations? Ne devrait-on pas dire que le cessez-le-feu est mort, n'est plus d'application et prend des mesures, étant donné toutes les mesures des Russes? Non, ce ne serait pas utile de déclarer les accords de Minsk lettres mortes. Non. Les accords de Minsk sont et restent la meilleure fondation d'une résolution pacifique du conflit en Ukraine. Bien sûr, nous constatons de multiples violations du cessez-le-feu en Ukraine. Les armements restent sur place. Et l'accès des représentants de la mission de surveillance, leur accès reste bloqué et entravé. Donc effectivement, il y a des problèmes, des violations avérées. Mais je ne vois pas d'alternative. Il faut continuer de soutenir les efforts de l'Ukraine, de différents alliés de l'OTAN et d'autres acteurs, ces efforts qui visent à étayer les efforts de paix et de mise en œuvre des accords de Minsk. Parce que, en l'absence d'accords de Minsk, je crains fort que la situation s'aggrave encore plus. Une situation à éviter à tout prix, car la situation est déjà assez difficile. Et les accords de Minsk restent notre fondement.
Reuters,
allez-y. Oui, merci beaucoup. J'avais une question par rapport aux motivations derrière les mesures dont vous avez parlé de partage d'informations sur le trafic aérien. Est-ce que ça a à voir avec la catastrophe qui a eu lieu? Eh bien, ça a été une décision qui fait partie de cette coopération avec l'Ukraine sur le fonds d'affectation spéciale contrôle et commandement. La sécurité aérienne est importante, surtout à l'OTAN. Nous voyons que la situation est instable sur le terrain. Nous voyons des combats. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé que nous allions partager ces données de trafic aérien avec l'Ukraine. Donc ce sont les contrôleurs aériens en Pologne, en Norvège. Et un troisième pays qui m'échappe, la Turquie, voilà, qui vont fournir ces données pour contribuer à la sécurité aérienne de la région. Je crois qu'il est clair que c'est très important, surtout dans cette région. Monsieur au deuxième rang, allez-y.
Bonjour,
Saulius Jakučionis, Lituanie, service d'information balte. Deux questions, monsieur le secrétaire général. Première question, vous savez que les États baltes ont demandé une brigade militaire. Cette demande a été faite le mois dernier. Est-ce que SACO a répondu à cette demande et que contient la réponse du SACO? Deuxième question, la Lituanie est le premier pays de l'OTAN, le seul pays de l'OTAN qui a annoncé son soutien à l'Ukraine avec du matériel militaire. Ne pensez-vous pas que ce fait soit dangereux à long terme, que nous soyons le seul pays? D'abord, oui, effectivement, j'ai vu la demande faite et nous allons bien sûr évaluer toutes les demandes faites par tous les alliés. Ce que nous avons constaté, c'est que l'OTAN et les alliés de l'OTAN ont déjà multiplié leur présence à l'est de l'Alliance, notamment dans les pays baltes. Nous avons fait ça par le biais de mesures d'assurance, police du ciel et nos bâtiments en mer Baltique et mer Noire, ainsi que la présence de soldats dans le cadre d'exercices. Et le message de notre réunion d'hier était « on ne peut plus clair, nous allons poursuivre ces mesures d'assurance et nous allons continuer cette pratique de tenir des exercices. Nous revenons d'un exercice pour la force fer de lance en Pologne la semaine dernière. Et nous allons également situer des états-majors, des QG, dans les pays baltes. Nous avons également la possibilité de renforcer les pays par la force fer de lance, mais également en doublant la taille de la NRF, force de réaction de l'OTAN, de 13 000 à presque 40 000. Tout ceci doit intéresser la Lituanie et les pays baltes. Nous avons accru notre présence en QG, poste de commandement, exercice et notre capacité de renforcer si besoin est. Nous allons continuer de maintenir, de tenir la situation à l'œil et nous allons faire tout ce que nous pouvons pour aider nos alliés. Merci, ceci conclut la conférence de presse. Le secrétaire général vous parlera après la dernière session des ministres de la Défense. Merci beaucoup.